ce mercredi 9 août 2023, il est 17h. Place au journal en français du studio Kalangou. À présent, les titres. Avec le délestage de l'électricité au Niger depuis quelques jours, vous suivrez dans ce journal comment les radios partenaires du studio Kalangou continuent de diffuser. Les conducteurs de camions bloqués à la frontière du Bénin suite à la fermeture des frontières terrestres vivent des conditions difficiles. Vous écouterez le cri de cœur de quelques-uns. La partie magazine de cette édition va porter sur l'impact des effets du changement climatique sur l'agriculture, l'élevage et la vie des agro-pasteurs. Bonsoir à tous, Rafika Taher au micro. Depuis des jours, le délestage de l'électricité se fait au Niger, ce qui du coup a un impact sur la diffusion des programmes de Studio Kalangou sur les radios partenaires. Comment celles-ci arrivent à travailler? Réponse avec les responsables des radios alternatives d'IFA et Tebonsé à Tillabéri.
À Tillabéri, on n'a pas vraiment à se plaindre à ce qui concerne les coupures d'électricité parce qu'on a au moins 20 heures d'électricité par jour. Généralement, les coupures d'électricité constatées ici, c'est de la nuit. Les quelques rares moments où les coupures d'électricité coïncident avec les heures de diffusion de programmes de Studio Kalangou, déjà nous avons les journaux à notre disposition qu'on rediffuse une fois l'électricité retardée.
Heureusement, ici à Difa, ça fait un bout de temps que nous n'avons pas de connexion d'électricité avec le Nigeria. L'électricité que la région de Difa consomme, c'est l'électricité ici, donc des groupes électrogènes, donc de la Nigelec. Ce qui veut dire que le délestage ici, ce n'est pas fréquent. On ne peut pas dire qu'il n'y a pas de délestage, mais ça n'a pas changé de rythme à cause de la coupure de la ligne venant du Nigeria. Ici, à la radio alternative, on continue notre travail comme d'habitude, comme on a l'habitude de le faire.
Depuis la fermeture des frontières terrestres entre le Bénin et le Niger, les conducteurs des camions de cette route commerciale principale du Niger avec la mer se trouvent désormais dans une situation précaire. Plusieurs d'entre eux partagent leur vécu et exposent les défis qu'ils affrontent au quotidien. Ils sont au micro de Fadel Alou.
Aujourd'hui, cela fait 5 jours que nous sommes bloqués ici à la frontière. Conditions de vie, regardez comment nous sommes. Nous passons la journée ici, nous dormons ici, avec toutes les intempéries de la nature, le vent, la pluie, etc. Oui, bon, nous partons acheter quelques produits nécessaires et faire notre cuisine. Voyez-vous, quelqu'un qui est en voyage, qui arrive à la frontière et se trouve bloqué pendant 5 jours, vous savez bien qu'il y a problème. C'est le peu de frais de route que nous avons, que nous utilisons.
Il y a parmi nous des gens qui ont des moyens pour survivre et les autres comptent sur la solidarité entre nous. Les frais de route pour un chauffeur varient entre 60 à 75 000 francs. Si tu es bloqué ici 10 jours, avec la sécurité des denrées alimentaires, c'est difficile. Les commerçants ont tout chamboulé.
Cette fermeture des frontières avec le Bénin qui impacte la vie des conducteurs de camions et aussi des propriétaires de marchandises périssables dont les oignons qui sont les plus nombreux sur ces taxes. Plusieurs chauffeurs expriment leur désarroi face à la détérioration de leurs produits. Ils sont également au micro de Fadel Alou.
On a fait 9 jours ici. 9 jours. Et on a transporté oignons. Et tu as vu avec tes propres yeux. Tu vois comment oignons est gâté. Et on n'est plus de 100 camions. Hein. D'autres sont retournés. Et maintenant, on ne sait pas quand est-ce qu'ils vont nous libérer. Un camion prend 350 sacs. Dans les 350 là, tu ne peux pas trouver 100 sacs qui sont bons. Il n'y en a pas. Tout est mouillé. À peu près 15 millions chaque camion. La perte, c'est trop. Tu vas trouver au moins 1 500 000 ou bien 2 millions sur 15 millions.
Oignons là, ça sent déjà, tout est gâté. Comme nos collègues ont ouvert leur camion, vous voyez ce qui s'est passé. Tout est pourri. Et nous, on est là, c'est pour passer l'argent à la banque, pour chercher à manger un peu. Maintenant, d'où on va passer maintenant pour aller payer les dettes des gens aux banques? On laisse ananas passe, on laisse tomate passe. Normalement, ils doivent avoir pitié de nous, les gens d'oignons aussi.
L'ONG Nurul Huda, en collaboration avec le Programme national de la santé oculaire, organise une campagne de chirurgie foraine de la cataracte gratuite à l'hôpital du district de Dogondouti du 8 au 12 août. Mohamed Sani Damoudi, chargé de communication de l'ONG, au micro de Aliobawa.
La cataracte fait partie des maladies qui entraînent la perte de vue au Niger. Sur 100 personnes devenues aveugles, 47% des cas sont dus à la cataracte. C'est pourquoi l'ONG Nourul Houda, avec le partenariat de Tagda Al-Najat du Koweït, organise une campagne de chirurgie foraine de cataracte. Nous envisageons faire cette chirurgie au Niger à 700 personnes. À Guidanrunji Maradi, nous avons opéré 100 personnes. À Birni, 100. À Loga, 100. Et maintenant, ici à Dogondouchi, nous allons opérer 200 personnes, vu l'ampleur de cette maladie qui sévit ici. Cette opération n'est pas compliquée. Elle est faite en 10 minutes et c'est gratuit.
En bref, environ 630 personnes, majorité des femmes et des enfants, ont été forcées de fuir leur village de Tidiki, Nkankan et Amanas de la commune de Inates pour trouver refuge dans la ville d'Ayoru le 2 août selon un communiqué d'Ocha. Ces personnes ont fui à cause d'une incursion menée par le même jour par des éléments présumés des groupes armés non étatiques. À ce jour, environ 707 000 personnes se trouvent en situation de déplacement forcé au Niger, dont près de 404 000 personnes déplacées à l'intérieur du pays. Les conflits entre agriculteurs et éleveurs sur les ressources partagées, à savoir les couloirs de passage, les aires de pâturage et les points d'eau, sont la cause de plusieurs pertes en vie humaine dans le département de Ngingimi chaque année. Ardo Hamza Mahamadou, chef du groupement Peul de l'Eco, lance un appel à l'endroit des leaders communautaires des deux parties. Il est au micro de Maïna Abdoulaye.
Nous ne voulons plus de bagarres entre agriculteurs et éleveurs dans la zone. Que Dieu apporte le bonheur entre les éleveurs et les autres communautés. Nous formons une même communauté, donc il faut cultiver la paix partout. Il faut éviter les conflits. Ce n'est pas toujours qu'on arrive à maîtriser les conflits. C'est pour cela que nous avons réuni ces personnes pour parler avec elles, partager l'information et poursuivre la sensibilisation. Nous devons cohabiter et vivre ensemble.
Le village de Kourboubou était auparavant une zone boisée habitée par des animaux sauvages et différents arbres. Aujourd'hui, elle est menacée par la coupe abusive des espèces protégées qui s'y trouvent malgré les sanctions prévues par les services de protection de l'environnement. Capitaine Saini Daouda, divisionnaire de la protection de l'environnement d'Agadez, au micro d'Anissé Karim.
À Agadez, c'est très difficile d'avoir une zone qui est boisée comme Kourboubou. On peut trouver différents types d'espèces, surtout l'acacia albida, l'acacia réaliana, qui sont des espèces qui sont tellement affectées par les animaux. Mais malheureusement, durant ces dernières années, on assiste à une coupe abusive de ces espèces-là qui sont protégées. Parce que dans la région d'Agadez, l'État a autorisé la population de faire la fabrication du charbon, mais spécifiquement à base du prozo, que les gens appellent fruit. C'est cette espèce seulement que la population peut utiliser pour faire le charbon. Mais malheureusement, dans la localité de Kourboubou, il y a des gens qui utilisent les espèces acacias pour faire du charbon. Quelqu'un qui connaît Kourboubou d'ici 2-3 ans, vraiment s'il part là-bas, il doit voir que la population est en train de faire du gâchis là. Chaque fois qu'on part là-bas, on prend les gens, on les fait des amendes. Ils peuvent aller de 50 000 à 500 000 et ils peuvent même faire un emprisonnement de 2 ans à 3 ans. Ils peuvent même courir les deux. Ça veut dire que la personne, s'il insiste, il va d'abord payer et faire l'emprisonnement. Mais jusque-là, il insiste.
Au 9e jeu de la francophonie tenu du 28 juillet au 6 août 2023 en République démocratique du Congo, plusieurs disciplines sportives étaient à l'affiche. Parmi celles-ci, il y a eu des combats de lutte libre. Les lutteurs nigériens ont participé à cette lutte qui est méconnue chez nous. Le directeur technique de la Fédération nigérienne de lutte, Malambarka Akuda, explique la différence entre cette lutte et celle pratiquée au Niger. Il est au micro de Soumane Amadou.
En lutte africaine, dès que vous amenez quelqu'un au sol, c'est fini, on arrête le combat. Mais en lutte libre, il faut immobiliser quelqu'un, maîtriser quelqu'un sur le sol et sur le dos. Vraiment, il y a des chutes qui donnent des points directement, mais voilà la seule différence entre la lutte libre et la lutte africaine. Sinon, les prises techniques, c'est la même chose. Les portées, les ramassements des jambes. Et en lutte libre, ça se faisait sur des tatamis comme en judo. Avec des chaussures et des maillots de lutte. Et voilà la différence. Sinon, c'est le même style debout. Le seul changement, quand on vient au sol, c'est fini. La tête touche le sol, les fesses touchent le sol, les flancs touchent le sol, les deux genoux, une main, deux mains, un genou. En lutte libre, il n'y a pas tout ça.
En magazine aujourd'hui, dans les pays du Sahel central, Burkina Faso, Mali et Niger, les conflits, la violence, les effets du changement climatique exacerbent sur la sécurité alimentaire des populations. Pour lutter contre l'insécurité, il faut réellement investir dans les actions de développement et donner plus d'opportunités d'emploi à la jeunesse afin qu'elle puisse vivre dignement, explique Ibrahim Koulibaly, président du réseau des organisations paysannes d'Afrique de l'Ouest. On l'écoute au micro de Mokhtar Hamadou.
Après les premières heures des indépendances, la plupart des pays africains n'ont pas réellement considéré l'agriculture, notamment l'agriculture vivrière, comme étant un secteur stratégique. Et donc il y a eu très peu d'investissements pour qu'il y ait un développement réel de l'agriculture vivrière et donc une plus forte résilience des communautés par rapport à la question de la sécurité et de la souveraineté alimentaire. Je pense que ça a été une des premières erreurs qui a été faite. Une seconde erreur que nos États ont fait, c'est qu'on n'a pas suffisamment prévu le croix de la population et la question de la jeunesse. Vous savez, aujourd'hui, quoi qu'on dise, qu'on parle de terrorisme, de guerre des religions ou tout ce qu'on connaît, ce sont les jeunes de nos pays qui attaquent leur propre pays. Ensuite, le changement climatique est une des questions qui est venue s'ajouter. Dans les années 70, on a connu les grandes chercheurs qui ne sont plus partis et donc qui ont fragilisé un écosystème déjà qui ne produisait pas suffisamment pour les humains et le bétail.
Comment faire pour que la jeunesse sahélienne ne bascule pas dans le terrorisme?
Il faut qu'il y ait un consensus de haut niveau au niveau des décideurs politiques que cette question n'est pas une question religieuse fondamentalement, c'est une question de développement. C'est parce qu'il n'y a pas le développement que les jeunes ont basculé. Et donc, si on veut faire revenir les jeunes, il faut investir réellement pour leur donner des opportunités d'emploi réelles, qu'ils puissent vivre dignement de leur travail. Et l'agriculture est un secteur stratégique. Mais il faut qu'il y ait une vision claire par rapport à ces questions, qu'on ne continue pas à suivre l'Occident dans son discours. Vous avez le même problème est arrivé en Algérie il y a 20 ans. On avait le même problème où on attaquait, on tuait les gens tous les jours. Vous savez, l'Algérie, comment ils ont réglé les problèmes? C'est en investissant dans les jeunes. Ils ont fait la paix avec ces jeunes là, qui avaient attaqué leur propre pays. Donc moi je dis, l'Afrique doit faire son propre diagnostic, ne pas se laisser entraîner par les vents qu'on veut nous imposer et donc poser cette problématique de la jeunesse. Un pays comme le Niger, c'est plus de 20 millions d'habitants sur un pays désertique. Donc si on n'investit pas dans les jeunes, comment on va faire pour qu'il y ait la paix? Moi je suis sûr que si on fait ça d'ici 2 ou 3 ans, on va voir vraiment des avancées réelles.
Monsieur le Président, autre phénomène, c'est l'accaparement des terres agricoles et pastorales. Est-ce que c'est aussi un frein pour le développement?
Mais absolument, on ne peut pas privatiser nos terres. Parce que si on fait ça, je pense qu'on déclenche une guerre encore plus grave qui ne va pas finir. Vous savez, le seul bien que possèdent nos communautés, c'est les terres. Donc, nos États doivent élaborer des législations foncières qui reconnaissent que les communautés ont des droits sur leurs terres de façon permanente. Si on fait cela, on crée les conditions d'un investissement à long terme dans la terre. Parce que les gens ne peuvent pas investir dans des terres où ils n'ont aucune propriété garantie. Donc, c'est ça qui permet vraiment de créer des unités de production très solides qui vont produire mieux, plus et pour une longue période. Donc, la question des accaparements des terres doit être combattue par toutes les autorités politiques.
Nous sommes au terme de ce journal. Merci de l'avoir suivi. Ne quittez pas, les informations continuent en langue nationale. Et à 18h15, Moussa Mamman vous présentera le forum en français avec pour thème la situation des expulsés d'Algérie au Niger. Quel impact sur la cohabitation avec la communauté d'accueil? Vous pouvez réécouter les journaux et les magazines sur le 325 avec la puce RTL gratuitement et le reste des productions sur l'application Studio Kalangu disponible sur Play Store.
Tous les jours, écoutez les programmes du Studio Kalangu sur les ondes de nos radios partenaires.
Et sur WhatsApp au 80 06 88 54 à partir de 17h.
N'oubliez pas nos rendez-vous hebdomadaires.
Lundi, nous abordons une question de droit dans la partie magazine.
Mardi, suivez le magazine Bien-être à la fin des journaux et le forum Espace Femmes à 18h15.
Ne manquez pas le forum de la presse du vendredi pour le décryptage de l'actualité de la semaine.
Samedi et dimanche, place à l'actu des jeunes à partir de 17h, suivi de Tous à la Fada.
Et Studio Kalangu au rythme du Niger.
Réécoutez les journaux et les magazines sur le 325 avec la puce RTL gratuitement jusqu'au 5e appel, puis 15 francs par appel. Le reste des productions sur l'application Studio Kalangu disponible sur Play Store. Studio Kalangu.